Jack London, avant Adam, les demi-hommes, en exergue. Ceux-ci sont nos ancêtres et leur histoire est la nôtre. Aussi sûrement qu'un jour, en nous balançant aux branches des arbres où nous sommes descendus sur le sol pour y marcher dans la position verticale, aussi sûrement, à une époque plus reculée encore, nous nous sommes évadés de la mer en rampant, afin de nous risquer une première fois sur la terre ferme. Jack London, correspondance de Kempton Wace. Chapitre 1. Mes rêves. Des images. Souvent, avant de l'apprendre, je me suis demandé d'où venait la multitude d'images qui peuplaient mes rêves, car dans ma vie de tous les jours, je n'en avais jamais vu de semblables. Elles torturèrent mon enfance, transformant mes rêves en une suite de cauchemars, et finirent par me convaincre que j'étais un être différent de ceux de mon espèce, une créature anormale et maudite. Ce n'est que durant le jour que je goûtais ma part de bonheur. Mes nuits se passaient sous le règne de la peur, et quelle peur ! J'ose affirmer que de tous les hommes qui foulent cette terre en même temps que moi, aucun n'a éprouvé une peur de ce genre et un tel degré d'intensité. Car ma peur était la peur des temps reculés, la peur qui dominait l'humanité à sa naissance. En un mot, la peur, reine absolue de cette époque primitive, connue sous le nom de Pléistocène moyen. Là, vous vous demandez ce que je veux dire. Je vois qu'une explication est nécessaire avant de vous révéler la nature de mes rêves. Autrement, vous ne pourriez pas saisir le sens des choses qui me sont familières. Tandis que j'écris ces lignes, tous les êtres et les événements de cet autre univers surgissent devant moi en une vaste fantasmagorie, et je comprends que pour vous, ils demeuraient dépourvus de signification. Que représentent à vos yeux l'amitié d'oreilles pendantes, la chaude sympathie de la rapide, la volupté et l'atavisme d'œil rouge? Une incohérence criarde, rien de plus, de même que les agissements des hommes du feu et des hommes des arbres, et les bruyants conciliabules de la horde. Car vous ignorez la paix des fraîches cavernes au flanc des falaises, et les rassemblements au bord de cours d'eau où l'on allait boire au déclin du jour. Vous n'avez jamais senti la morsure du vent matinal dans la cime des arbres, ni savouré la jeune écorce douce au palais. Il serait sans doute préférable de reprendre les faits dès mon enfance. Tout gamin, pendant mes heures de veille, je ressemblais aux autres garçonnets de mon âge. Et durant mon sommeil, il en allait tout autrement. Aussi loin que remontent mes souvenirs, mon sommeil ne fut qu'un long cauchemar. Rarement mes rêves s'éclairèrent d'une lueur de félicité. En général, ils étaient empreints de peur, d'une peur si bizarre et si étrange qu'elle échappe à toute analyse. Nulle peur ressentie par moi au cours de mon existence diurne ne peut se comparer à celle qui m'empoignait pendant mon sommeil. Elle était d'une nature spéciale et tout à fait en dehors du cadre de ma vie quotidienne. J'étais un jeune citadin pour qui la campagne était un domaine inexploré. Cependant, jamais je n'ai rêvé de ville et jamais une maison n'a surgi dans un de mes songes, pas plus d'ailleurs qu'un être humain n'en a franchi les murs. Moi qui n'avais vu d'arbres que dans les parcs et les livres illustrés, durant mon sommeil, j'errais à travers d'interminables forêts. Et bien plus, ces arbres de rêve n'étaient pas une vision vague et confuse, mais ils offraient des contours nets, bien détachés. Je vivais dans leur intimité, j'en connaissais chaque branche, chaque brindille, et jusqu'à la moindre feuille. Je me souviens nettement du jour où, pour la première fois, je vis un chêne. Tandis que j'observais les feuilles, les branches et les nœuds du tronc, je me rappelais avec une précision angoissante avoir vu ce même arbre un nombre incalculable de fois pendant mon sommeil. Je ne fus donc nullement surpris lorsque, plus tard, j'identifiai à première vue le sapin, l'if, le bouleau et le laurier. Je les connaissais depuis longtemps et les revoyais encore chaque nuit dans mes rêves. Ainsi que vous l'aurez remarqué, les faits exposés ci-dessus transgressent la loi fondamentale des rêves, à savoir que dans les rêves, on revoit ce qu'on a vu, à l'état de veille, se dérouler dans un ordre plus ou moins fantasque. Or, tous mes rêves se trouvaient en contradiction avec cette loi. Dans mes rêves, jamais je ne vis rien de ce qui m'entourait pendant la journée. Ces deux existences absolument distinctes ne présentaient rien de commun en dehors de ma personne. Je formais en quelque sorte le trait d'union entre ces deux vies. De bonne heure, dans mon enfance, j'appris que les noix venaient de chez l'épicier, les cerises de chez le fruitier. Mais longtemps auparavant, j'avais, en rêve, cueilli des noix sur les arbres, où je les avais ramassées à terre sous les noyers. Et j'avais dévoré des baies récoltées par moi sur les vignes et les buissons. Alors que pareille expérience ne m'était encore jamais arrivée dans la vie normale. Oh, je n'oublierai jamais la première fois qu'on me servit des myrtilles sur notre table familiale. Je n'avais pas encore vu ces fruits, et pourtant leur seul aspect éveilla en moi le souvenir de mes rêves, où j'errais à travers des régions marécageuses en me gavant de ces baies noires. Ma mère m'entendit une petite assiette. J'en remplis ma cuillère, mais avant même de la porter à ma bouche, je connaissais leur saveur. Je ne fus nullement déçu. Elle possédait cet arrière-goût éprouvé mille fois déjà dans mon sommeil. Et les serpents, bien avant que j'eusse entendu parler de leur existence, ils me tourmentaient dans mes songes. Ils me guettaient dans les clairières des forêts, se dressaient et bondissaient sous mes pieds, se faufilaient en rampant dans l'herbe sèche ou sur les rochers nus, me poursuivaient jusqu'à la cime des arbres en roulant les troncs de leurs longs corps luisants, me chassant de plus en plus haut jusqu'aux menues branches qui craquaient sous mon poids, alors que le sol m'apparaissait à une distance vertigineuse au-dessous de moi. Ah, les serpents! Avec leurs langues fourchues, leurs yeux ronds comme des perles, leurs écailles brillantes, leurs sifflements et leurs bruissements soyeux. Je ne les connaissais que trop, quand, pour la première fois, on me conduisit au cirque, où je vis le charmeur de serpents à l'œuvre. Je retrouvais en eux de vieilles connaissances, ou plutôt des ennemis de longue date, qui hantaient mes nuits d'épouvante. Durant combien d'éternités ai-je erré à travers ces forêts interminables, aux ténèbres horrifiques, moi, être timide, continuellement traqué, sursautant au moindre bruit, effrayé par mon ombre, les nerfs tendus, toujours en alerte et prêt à fuir en une course folle pour sauver ma peau. Car j'étais une proie pour toutes les bêtes féroces de la forêt, et je détalais à leur approche, poussé par une frayeur panique. J'avais 5 ans lorsqu'on m'emmena pour la première fois au cirque. Je rentrais malade à la maison, mais je n'accuse point les cacahuètes ni la grenadine. Laissez-moi vous raconter mon aventure. Quand nous pénétrâmes sous la tente où se trouvait la ménagerie, un formidable rugissement déchira l'air. Je lâchai brusquement la main de mon père et courus vers l'entrée, bousculant les spectateurs et hurlant d'effroi. Mon père, me rattrapant, essaya de me calmer. Il me montra la foule indifférente aux cris des fauves et me redonna courage en m'assurant que nous n'avions aucun danger à craindre. Néanmoins, ce fut en tremblant que, malgré les exhortations paternelles, j'approchai de la cage du lion. Oh, je le reconnus tout de suite, la brute. En ma vision intérieure défilèrent les images de mes rêves. Le soleil de midi tomba d'abord sur les hautes herbes où le taureau sauvage paissait tranquillement. Tout à coup, les herbes s'écartent au passage du fauve qui se précipite sur l'échine du taureau. J'entends le fracas de la lutte, les mugissements de la victime et le broiement continu des eaux. Ou encore, au calme frais, au bord de la rivière, le cheval sauvage dans l'eau jusqu'aux genoux s'abreuve paisiblement, lorsque surgit la brute, toujours cette brute fauve, et alors les bonds, les hennissements du cheval et les clapotements de l'eau, puis le broiement des eaux. Autre scène. Au crépuscule, dans la silencieuse mélancolie du jour finissant, s'élève, telle la trompette du jugement dernier, l'épouvantable rugissement du lion, suivi aussitôt des cris de frayeur et des appels affolés parmi les arbres. Moi aussi je tremble, car je suis un de ces pauvres êtres qui frissonnent et hurlent de peur sous les feuilles. À la vue du fauve, impuissant derrière les barreaux de sa cage, je ne pus contenir ma colère. Je lui montrais les dents, dansais devant sa prison, en poussant des cris incohérents, accompagnés de mimiques grotesques. Il répondit en se ruant contre les barreaux et en rugissant vers moi de rage impotente. Ah, lui aussi me reconnaissait. Mes cris étaient ceux des siècles révolus, et il les comprenait. Mes parents étaient effrayés. « Ce petit est malade, » dit ma mère. « Il souffre d'une crise de nerfs, » ajouta mon père. Je ne leur révélai jamais la vérité, ils l'ignorent encore. J'observais une discrétion absolue sur ma dualité, ce dédoublement de ma personnalité, comme je crois à juste titre pouvoir désigner ce phénomène. Après le charmeur de serpent, je vis tout ce que je vis du cirque ce soir-là. On dut me ramener à la maison, nerveux et à bout de force, tout agité par cette irruption dans ma vie réelle des scènes de ma vie de rêve. Ah, je viens de faire allusion à ma discrétion. Une seule fois, je me hasardais à faire des confidences à l'un de mes camarades, un enfant âgé de 8 ans comme moi. D'après mes rêves, je reconstituais pour lui les tableaux de ce monde évanoui, dans lequel je crois fermement avoir vécu autrefois. Je lui parlais des terreurs de ces temps préhistoriques, de mes jeux avec oreilles pendantes, du langage inarticulé des hommes du feu, et des repères où ils se réfugiaient. Il se moqua de moi, me tourna en ridicule, et me raconta des histoires de revenants et de morts qui se relèvent la nuit de leur tombeau. Il plaisanta mes rêves stupides. Je lui en racontai davantage, mais il rit de plus belle. Je lui jurai que tout cela était la vérité. Et il commença de me considérer avec méfiance. En outre, il fit à leur compagnon de jeu un récit ahurissant de mes aventures, si bien que tous me prirent pour un détraqué. Cette amère expérience me servit de leçon. Je différais de mes semblables. J'étais un être anormal. Ils étaient incapables de me comprendre et moi de m'expliquer sans créer entre nous de nouveaux malentendus. Quand circulaient à la ronde les histoires de revenants et de lutins, je me tenais quoi? Je souriais à part moi, pensant que mes nuits de frayeur étaient la réalité même, aussi vraie que la vie elle-même et non des fumées et des ombres. Les ogres et les loups-garous ne m'inspiraient aucune terreur. La chute vertigineuse à travers les branches feuillues, les serpents qui m'assaillaient et que j'évitais en bondissant dans une fuite éperdue, les chiens sauvages qui me pourchassaient dans les clairières, voilà ce qui causait ma peur, une peur réelle et concrète, et non fille de mon imagination. Les ogres et les loups-garous étaient pour moi d'excellents compagnons de lit, comparé à ces terreurs qui tourmentèrent mes nuits durant mon enfance et peuplent encore mes cauchemars à l'époque où j'écris ces lignes. Chapitre 2. Mes chutes. J'ai déjà dit que dans mes rêves, je ne voyais jamais d'êtres humains. De bonne heure, je me rendis compte de ce fait et j'en éprouvais une poignante déception. Encore tout enfant, j'avais l'impression, au sein de mes affreux cauchemars, que si je pouvais seulement y rencontrer un seul de mes semblables, je serais délivré de ces terreurs obsédantes. Cette pensée hanta mes nuits pendant des années. Si seulement je pouvais trouver cet être humain, je serais sauvé. Cette pensée, je le répète, me poursuivait au sein même de mes rêves, car j'y découvre la preuve de l'existence simultanée de mes deux personnalités et l'évidence d'un point de contact entre elles. Le moi que je retrouve dans mes rêves existait au temps reculé, bien avant l'apparition de l'homme vivant à l'époque actuelle, tandis que mon autre moi, avec sa science acquise de la vie humaine, projette ses lumières sur la substance même de mes songes. La signification et la cause originelle de mes rêves me furent révélées seulement lorsque, devenu étudiant, je suivais les cours du collège. Jusque-là, ils demeuraient dénués de sens et de causes apparentes. Mais à l'université, on m'enseigna les lois de l'évolution et la psychologie, et j'eus enfin l'explication de certains états mentaux tout à fait bizarres. Par exemple, une chute à travers l'espace, rêve assez commun et que tous connaissent par expérience personnelle. Mon professeur m'apprit que c'était là un souvenir de race remontant à nos ancêtres primitifs qui vivaient dans les arbres. Pour eux, la possibilité de la chute restait une menace continuelle. Nombre d'entre eux perdaient la vie de cette façon, et tous firent des chutes terribles, échappant à la mort en s'agrippant aux branches, tandis qu'ils dégringolaient sur le sol. Or, une telle chute, si elle n'était point mortelle, produisait des troubles organiques très graves et déterminait des modifications moléculaires dans les cellules du cerveau. Ces modifications se transmettaient aux cellules cérébrales procréatrices et constituaient des souvenirs raciaux. Aussi, lorsque vous et moi, endormis ou assoupis, tombons dans le vide pour reprendre conscience avec une espèce de nausée juste avant de toucher le sol, nous revivons simplement les sensations éprouvées par nos ancêtres arboricoles, gravées par des transformations cérébrales dans les souvenirs héréditaires de la race. Tous ces phénomènes ne sont en somme pas plus explicables que l'instinct. L'instinct n'est qu'une habitude tissée dans la trame de notre hérédité. Remarquons en passant que dans ce rêve de la chute si familière à vous, à moi, et à tous les humains, jamais nous n'atteignons le sol. Atteindre le sol équivaudrait à la mort, et ceux de nos ancêtres arboricoles qui allèrent jusqu'au bout de la chute périrent sur le coup. La secousse du choc se communiquait, il est vrai, à leurs cellules cérébrales, mais ils succombaient immédiatement, sans avoir le temps de procréer. Vous et moi sommes les descendants des privilégiés qui ne s'écrasèrent pas à terre. Voilà pourquoi nous arrêterons toujours à mi-chemin. Nous en arrivons maintenant à la dissociation de notre personnalité. À l'état de veille, nous n'éprouvons jamais cette sensation de chute. Notre personnalité de veille l'ignore totalement. Donc, et cet argument est de poids, la personnalité tout à fait distincte qui tombe quand nous dormons connaît cette culbute dans le vide pour l'avoir jadis expérimentée et conservée en son souvenir, tout comme notre personnalité de veille enregistre dans notre mémoire les événements de notre existence quotidienne. Arrivé à ce point de mon raisonnement, je commençais de voir clair. Soudain, la lumière m'éblouit et je compris avec une étonnante clarté tout ce qui, jusque-là, demeurait pour moi inexplicable et contraire aux lois naturelles. Pendant mon sommeil, ce n'était pas ma personnalité de veille qui prenait soin de moi, mais une autre personnalité, possédant une science tout à fait différente et en rapport avec les phénomènes d'une vie totalement dissemblable. Et quelle était cette personnalité? Quand avait-elle existé ici-là, pour y avoir accueilli cette série d'expériences bizarres? Mes rêves eux-mêmes répondent à cette question. Elle vivait dans les temps préhistoriques au cours de cette période que nous appelons la Pléistocène moyen. Elle dégringola des arbres sans toutefois s'écraser sur le sol. Elle poussa des cris de terreur en entendant le rugissement du lion. Elle fut poursuivie par les fauves et mordue par les reptiles au venin mortel. Et elle jacassa avec ses semblables dans les réunions et dut fuir devant les hommes du feu qui la maltraitaient. J'entends ici votre objection. Mais pourquoi ne conservons-nous pas également ces souvenirs de race, étant donné que nous aussi possédons cette autre personnalité confuse qui tombe dans l'espace durant notre sommeil? À cette question, je répondrai par une autre question. Pourquoi y a-t-il des veaux à deux têtes? À cela, vous répliquerez, c'est une monstruosité. Mais telle est également la réponse à votre question. Je possède cette double personnalité et ces souvenirs raciaux parce que je constitue une monstruosité. Soyons plus explicites. Le souvenir de race le plus commun est celui de la chute dans l'espace. Chez la plupart des individus, la personnalité de rêve n'a gardé que ce souvenir. Mais chez d'autres, elle est plus caractérisée et plus distincte. Et ces gens rêvent qu'ils volent, que des monstres les poursuivent. Ils ont des rêves remplis de couleurs, d'étouffements, de reptiles et d'insectes. En résumé, alors que cette personnalité est atrophiée dans la majorité des cas, chez quelques hommes, elle demeure presque effacée, et chez d'autres, elle subsiste, plus accentuée. Certains conservent des souvenirs raciaux plus intenses et plus complets que d'autres. La possession de cette autre personnalité varie suivant les cas. En ce qui me concerne, elle s'est conservée à un degré extraordinaire, de sorte qu'elle égale presque en puissance ma propre personnalité. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis à ce point de vue une monstruosité, un caprice de l'hérédité. Je suis persuadé que la possession de cette autre personnalité, moins prononcée cependant que chez moi, a engendré en certains esprits la croyance en la réincarnation. Hypothèse fort plausible, après tout. La représentation de scènes jamais vues dans la vie réelle, les réminiscences d'actes et d'événements appartenant au passé s'expliquent simplement par la foi en une vie antérieure. Mais ces personnes oublient de tenir compte de leur dualité. Elles confondent cette autre personnalité avec la leur propre, s'imaginant qu'elles n'en possèdent qu'une. Partant de telles prémices, elles en arrivent à croire qu'elles ont vécu plusieurs siècles écoulés. Ce en quoi elles se trompent. Il ne s'agit point là de réincarnation. Parfois, je me vois errant à travers les forêts d'un monde plus jeune. En réalité, ce n'est pas moi que j'aperçois dans ces visions, mais un autre être qui s'incorpore vaguement à ma personnalité, de même que mon grand-père et mon père font partie de moi, mais à une distance moins reculée. Cet autre moi-même est un ancêtre, un aïeul, si je remonte ma généalogie en ligne directe, et descendant d'une souche d'êtres ayant vécu longtemps avant lui, qui ont peu à peu acquis des doigts et des orteils et ont commencé de grimper aux arbres. Au risque de devenir fastidieux, je crois devoir répéter que de ce point de vue spécial, on doit me considérer comme une anomalie. Non seulement je possède de la mémoire raciale à un degré extraordinaire, mais encore mes souvenirs se rapportent à un ancêtre particulier très lointain. Et bien que mon cas soit plutôt rare, il ne présente rien d'étonnant. Suivez mon raisonnement. Un instinct est un souvenir racial, fort bien. Par conséquent, vous, moi, tous tant que nous sommes, nous recevons ces souvenirs de nos pères et mères qui les ont eux-mêmes hérités de leurs parents. Il existe donc un médium par lequel ils se transmettent de génération en génération. Cet intermédiaire que Weismann désigne sous le nom de plasma germinatif est chargé de conserver les souvenirs de toute l'évolution de la race. Ils sont confus et grand nombre d'entre eux finissent même par s'effacer. Mais certains prototypes de plasma germinatif transporte une quantité énorme de souvenirs. Scientifiquement parlant, ils sont plus ataviques que d'autres. Et il faut croire que je possède ce genre de plasma à un degré peu commun. Je suis un caprice de l'hérédité, un cauchemar atavique. Appelez bon cela comme bon vous semble. Néanmoins, me voici en chair et en os, absorbant quotidiennement trois repas substantiels. Pourquoi nier l'évidence? Avant de poursuivre mon récit, je veux par avance répondre au saint Thomas de la psychologie, qui, trop souvent enclin à la moquerie, ne manqueront pas d'attribuer la cohérence de mes rêves à un excès d'études et à la pénétration subconsciente de ma connaissance de l'évolution dans mes rêves. D'abord, je n'ai jamais été un élève remarquable. Dans les cours, j'étais invariablement classé dernier. Je préférais les sports et surtout, je l'avoue sans vergogne, le jeu de billard. De plus, je n'ai appris l'existence des lois de l'évolution qu'à l'époque où je fréquentais l'université, alors que durant mon enfance et ma prime jeunesse, j'avais déjà vécu en rêve tous les détails de cette autre vie préhistorique. Je confesse toutefois que ces détails demeurèrent embrouillés jusqu'au moment où me fut révélée la théorie de l'évolution. L'évolution était la clé de mes songes. Elle me fournit l'explication des divagations de mon cerveau atavique, qui, moderne et normal, subissait l'influence d'un passé remontant au premier vagissement de l'humanité. Car dans ce passé que je connais bien, l'homme n'existait pas tel que nous le voyons aujourd'hui. J'ai dû vivre la période de sa formation. Chapitre 3. Mes anciens parents. À travers les rêves les plus fréquents de ma première enfance, je me voyais tout petit et blotti dans une sorte de nid de brindilles et de branches. Parfois, je passais de longues heures allongé, contemplant le jeu du soleil dans le feuillage au-dessus de ma tête et l'agitation des feuilles au souffle de la brise. Le nid lui-même oscillait en tous sens lorsque le vent se levait. Tandis que je reposais ainsi dans le nid, j'éprouvais continuellement une sensation de vertige. Pourtant, j'ignorais que j'étais suspendu dans le vide. Jamais je n'avais penché ma tête au bord du nid. Mais d'instinct, je redoutais cet espace béant au-dessous de moi et qui sans cesse me menaçait comme la gueule ouverte de quelque monstre dévorant. Ce rêve dans lequel je jouais un rôle passif et qui rappelait un état plutôt que des actes me visita souvent au cours de ma petite enfance. Mais brusquement, au milieu de mes visions, se ruaient des formes étranges, se produisaient des phénomènes terribles et apparaissaient des paysages inconnus de moi en tant qu'être normal. Il en résultait des cauchemars incompréhensibles et dénués de toute logique dans la succession des faits. Tantôt, j'étais un nourrisson du monde primitif étendu dans un nid arboréen, et l'instant d'après, je devenais un homme engagé dans un corps à corps avec l'horrible œil rouge. Et aussitôt, je me voyais rampant avec prudence vers le cours d'eau sous l'ardente chaleur de midi. Des événements, séparés durant de nombreuses années, défilaient devant moi en l'espace de quelques secondes, voire de quelques minutes. Je vous épargnerai les péripéties de cette ronde infernale. Devenu adulte et après avoir vécu des cauchemars des milliers de fois, je commençais seulement à voir clair dans mes rêves. J'acquis la notion du temps et fus à même de coordonner les événements et les faits. Je pus alors reconstituer ce monde lointain, à jamais révolu, tel qu'il m'apparut à l'époque où moi-même ou mon alter ego y vivions. Distinction d'ailleurs insignifiante, car l'être moderne que je suis a fait marche arrière et vécu la vie primitive en compagnie de cet autre moi. Comme il ne s'agit point ici d'un traité de sociologie, je vais m'efforcer de coordonner les événements épars en un récit compréhensible. Il existe en effet un lien de continuité entre tous ces rêves. Par exemple, mon amitié pour Oreille Pendante, la haine d'Œil Rouge et l'amour de la Rapide. Je me plais à espérer que cette histoire vous paraîtra suffisamment claire et pleine d'intérêt. De ma mère, je ne conserve qu'une vague souvenance. Mon premier souvenir d'elle, et certainement le plus vif, est le suivant. Je me revois étendu sur le sol. Je suis un peu plus âgé qu'à l'époque du nid, mais encore débile. Je me roule sur les feuilles sèches, je joue avec elles, et du fond de ma gorge s'élèvent de faibles gémissements. Le soleil éclatant m'emplit de la joie de vivre. Je me trouve dans une clairière, au milieu des buissons nains et d'une sorte de fougère, et au-dessus de moi se dressent de toutes parts les arbres de la forêt. Soudain, un bruit. Je me redresse et je tends l'oreille, immobile. Les murmures s'arrêtent dans ma gorge et je reste comme pétrifié. Le bruit, pareil au grognement d'un porc, se rapproche et bientôt je perçois le froissement produit par le mouvement d'un corps entre les buissons. Les fougères s'agitent sur son passage. Puis le rideau de feuillage s'ouvre. Je vois des prunelles luisantes, un long groin et des défenses blanches. C'est un sanglier. Il m'observe avec curiosité. Il pousse un ou deux grognements, déplace sa masse d'une jambe de devant à l'autre, remue la tête de droite et de gauche en agitant les fougères. Je reste figé sur place, les yeux vrillés sur l'animal, le cœur dévoré de crainte. Cette immobilité et ce silence m'étaient, semble-t-il, commandés. Je ne devais pas crier, malgré ma frayeur. L'instinct m'ordonnait de rester là, assis, en attendant je ne sais quoi. Le sanglier écarta les fougères et avança dans la clairière. Une lueur meurtrière brillait dans ses prunelles. Il agita la tête vers moi de façon menaçante, avança d'un pas, puis d'un second et d'un troisième. Alors je poussai un cri, un hurlement aigu et pénétrant. Cette fois encore, je devais obéir à cette vie intérieure. En effet, un autre cri, à peu de distance, répondit au mien. Le sanglier, déconcerté, se balançait sur ses pattes, hésitant, lorsqu'une apparition surgit à côté de nous. Ma mère ressemblait à un grand orang-outan ou à un chimpanzé, et cependant elle en différait par certains détails. Son corps plus puissant était moins velu, ses bras étaient moins longs, ses jambes plus grosses. Elle ne portait d'autre costume que sa toison naturelle. Et je vous jure que c'était furie quand elle se mettait en colère. Et telle une furie, elle apparut sur la scène. Elle grinçait les dents, faisant des farandes grimaces, et poussait une série de cris aigus. L'apparition de ma mère fut si brusque et si menaçante que le sanglier se ramassa sur lui-même en une attitude défensive et se hérissa comme elle s'élançait sur lui. Alors elle vint vers moi. Le sanglier ne bronchait pas. Instinctivement, je sus ce qu'il convenait de faire pendant ce court répit qu'elle venait de gagner. Je bondis vers elle et la grippai à la ceinture, m'accrochant à elle des mains et des pieds. Je dis bien des pieds, car je m'en servais avec autant d'adresse que de mes mains. Dans mon étreinte, je sentais ses poils se raidir sous l'effort de ses muscles et la tension de sa peau. Au même instant où je bondissais vers elle, elle sauta en l'air et se suspendit à une branche surplombante. L'instant d'après, le sanglier passa au-dessous de nous, entrechoquant ses défenses. Revenu de sa surprise, il s'était lancé en avant avec un cri semblable à un coup de trompette. C'était un appel, car aussitôt, de toutes les directions, des corps se ruaient à travers les fougères et les buissons. Une vingtaine de sangliers se précipitèrent dans la clairière. Mais ma mère, avec moi toujours accrochée à elle, s'était réfugiée sur une grosse branche à 4 mètres environ du sol. Elle était surexcitée et poussait des cris menaçants vers les sangliers qui, le poil hérissé et montrant les dents, s'étaient groupés sous notre arbre. Et moi, tremblant comme la feuille, je regardais les brutes furieuses, essayant d'imiter de mon mieux les cris de ma mère. Au loin répondirent des cris pareils aux nôtres, mais d'une note plus grave. Une sorte de basse rugissante qui s'enfla de plus en plus. Bientôt je vis s'approcher mon père. Du moins, tout me porte à croire que c'était là l'auteur de mes jours. Sa mine n'était pas des plus engageantes. Mi-homme, mi-singe, pourtant ni homme ni singe, et impossible de vous en faire la description. De nos jours, il n'existe sur Terre aucun être qui lui ressemble. Pour l'époque, il avait une haute stature et il devait peser dans les 60 kilos. La face large et aplatie, ses sourcils surplombaient les yeux, très rapprochés et enfoncés dans les orbites. Son nez camu, ou était-ce bien un nez, formait 2 orifices, les fosses nasales s'ouvrant en dehors au lieu de s'ouvrir vers le bas. Le front fuyait en arrière à partir des yeux et des cheveux, commençant tout de suite au-dessus des yeux, lui couvrait entièrement la tête, ridiculement petite, et supporté par un cou aussi ridiculement court et épais. Son corps était, comme les nôtres, d'une structure tout à fait rudimentaire. Il avait en réalité une poitrine vaste et profonde, mais par ailleurs on ne distinguait aucune générosité de ligne, point de muscles protubérants. Les épaules elles-mêmes paraissaient étriquées. En somme, il représentait la force, mais une force sans beauté. La force primitive, féroce, destinée à employer, à gripper, déchirer et détruire. Il avait des hanches étroites et ses jambes maigres et velues étaient torses, avec des muscles comme des cordes. Elles ressemblaient davantage à des bras. On y devinait tout juste un soupçon de ce mollet rond et charnu qui agrémente votre jambe et la mienne. Je me souviens qu'il ne pouvait marcher sur la plante des pieds parce qu'il avait les pieds préhensibles. Le gros orteil, au lieu de se trouver à la hauteur des autres orteils, s'opposait à eux à la façon d'un pouce. Voilà ce qui lui donnait l'apparence d'une main et lui permettait de s'agripper aux arbres, mais l'empêchait de marcher sur la plante des pieds. Son aspect n'était pas moins insolite que la façon dont il arriva à l'endroit où ma mère et moi nous tenions perchés au-dessus de la bande furieuse des sangliers. Il vint près de nous en sautant de branche en branche et d'un arbre à l'autre. Au moment où j'écris ces lignes, il me semble le voir encore, se balançant dans le vide pour prendre son élan, quadrumane velu, hurlant de rage. Il s'arrête de temps à autre pour se frapper la poitrine de son poing fermé, attrape une branche d'une main, s'élance pour franchir les espaces de 3 à 5 mètres et continue ainsi, sans aucune hésitation, son voyage aérien. Tandis que je l'observais, je ressentais dans mon être, dans mes muscles même, le désir impérieux de sauter également de branche en branche, certain de trouver en moi la force nécessaire. Pourquoi en aurais-je douté? Lorsque les petits garçons regardent leur père abattre un arbre à coups de hache, eux aussi songent qu'un jour ils manieront la hache et feront tomber les arbres. Le même phénomène se produisait chez moi. J'étais constitué pour accomplir les mêmes exploits que mon père, et la vie latente en moi éveillait à mon insu des ambitions de voyages aériens à travers la forêt. Enfin, mon père nous rejoignit, débordant de colère. Il avançait la lèvre inférieure, tandis que d'en haut, il regardait les sangliers de ses yeux menaçants. Il grognait à la manière d'un chien, et ses canines, grosses comme des crocs, m'impressionnèrent terriblement. Son attitude ne fit qu'exciter la fureur des sangliers. Il brisait des brindilles et des petites branches et les lançait sur nos ennemis. Il se suspendit même d'une main au-dessus d'eux, mais juste hors de leur atteinte, et se moquant d'eux alors que dans leur rage impuissante ils faisaient grincer leurs mâchoires. Et non content de cela, il brisa une énorme branche, et se cramponnant à l'arbre d'une main et d'un pied, il fouetta les flancs et les groins des bêtes sauvages. Inutile de dire que ma mère et moi, nous goûtions fort ce genre de sport. Mais on finit par se lasser, même des meilleures choses. Et bientôt mon père, tout en ricanant malicieusement, nous guida parmi les arbres. Je sentis alors mes ambitions se calmer, et redevenu timide, je m'abricripais à ma mère qui grimpait et se balançait à travers l'espace. Une branche cassa sous son poids. Elle venait de faire un énorme bond. J'éprouvais l'épouvantable sensation que tous deux, ma mère et moi, nous tombions dans le vide. La forêt et la lumière du soleil à travers les feuilles bruissantes s'évanouirent à mes yeux. J'eus la fugitive vision de mon père s'arrêtant brusquement pour regarder en arrière. Puis tout ne fut pour moi que ténèbres. L'instant d'après, je me réveillai dans mon lit, entre mes draps, tremblant, couvert de sueur et en proie à la nausée. Par la fenêtre ouverte, l'air pur pénétrait dans la chambre. La veilleuse brûlait paisiblement. J'en conclus que les sangliers ne nous atteignirent pas et que nous ne tombâmes pas jusqu'au sol. Sinon, je ne serais point ici à présent, un millier de siècles plus tard, pour raconter ce fait. Revenons en arrière jusqu'à ma tendre enfance, et imaginez-vous un instant à ma place, dans mon petit lit, rêvant ces horreurs incompréhensibles. Souvenez-vous que j'étais un enfant, sans aucune expérience. De ma vie, je n'avais vu un sanglier, pas même un cochon. Ce que je connaissais le plus rapprochant, c'était le lard fumé du déjeuner, grésillant dans la poêle. Pourtant, des sangliers bien vivants surgissaient dans mes rêves. Tandis que moi, en compagnie de parents fantastiques, je m'élançais d'un arbre à l'autre à des hauteurs vertigineuses. Vous étonnez-vous à présent que je fusse effrayé et oppressé par mes nuits hantées de cauchemars? J'étais maudit, et ce qui pisait, je craignais de le dire. Je ne saurais expliquer pour quelle raison, mais j'attachais à ces rêves un sentiment de culpabilité, encore qu'il me fût impossible de déterminer la nature de ma faute. Et durant de longues années, je souffris en silence, jusqu'à ce que, parvenu à l'âge d'homme, j'appris l'origine de ces affreux songes. Chapitre 4. Oreilles pendantes. Ce qui me compte déconcerte dans ces souvenirs préhistoriques, c'est l'estimation très vague de l'élément temps. Je ne parviens pas toujours à classer les faits par ordre chronologique, et souvent il me serait impossible d'affirmer si une, deux, trois, quatre ou cinq années se sont écoulées entre tel et tel événement. Je ne puis que juger grossièrement le passage du temps par l'aspect et les agissements de mes semblables. Je puis aussi appliquer la logique des faits aux différentes circonstances de ma vie. Par exemple, il ne subsiste aucun doute en mon esprit que ma mère et moi, menacés par les sangliers, nous grimpâmes dans les arbres et fîmes notre chute avant ma rencontre avec Oreilles Pendantes, qui devint par la suite mon compagnon de jeu. Il est également évident que je dus quitter ma mère entre ces deux périodes. Je ne conserve d'autres souvenirs de mon père que celui que j'ai déjà rapporté. Jamais dans les années qui suivirent, je ne revis l'auteur de mes jours. L'unique explication plausible est qu'il dut périr après notre aventure avec les sangliers. Sa fin fut certainement prématurée, car il était en pleine vigueur, et seule une mort soudaine et violente a pu l'enlever. Cependant, j'ignore comment il sortit de ce monde, s'il se noya dans la rivière, s'il fut avalé par un serpent, ou s'il disparut dans l'estomac du vieux dent de sabre, le tigre. Sachez que je n'ai souvenance d'aucun fait autre que ceux dont j'ai été personnellement témoin en ces temps préhistoriques. Si ma mère connaissait les circonstances du trépas de mon père, elle ne me les raconta jamais. Je doute même qu'elle disposât d'un vocabulaire suffisant pour me fournir ce renseignement. À cette époque, les hommes employaient en tout et pour tout une trentaine ou une quarantaine de sons pour se faire comprendre de leurs semblables. Alors je les appelle des sons et non des mots, parce que, primitivement, ils n'étaient que des sons, sans valeur déterminée et qui rendu variable l'adjonction d'adjectifs ou d'adverbes. Ces derniers instruments du langage n'étaient pas encore inventés. Au lieu de changer la signification du nom ou du verbe par l'emploi de l'adjectif ou de l'adverbe, nous alternions les sons par des variations d'intonation et de durée. Le temps, plus ou moins rapide, réservé à l'expression d'un son particulier, en nuançait le sens. Ne possédant aucune conjugaison, nous jugions du temps par la contexture du discours. Nous ne parlions que de choses concrètes parce que nous ne pensions qu'à des choses concrètes. Nous nous expliquions beaucoup par gestes. La plus simple abstraction dépassait notre pensée ordinaire. Et s'il arrivait à l'un de nous de concevoir une pensée abstraite, il était difficile de la communiquer aux autres car aucun son n'existait pour l'exprimer. Gêné par un vocabulaire si restreint, s'il inventait de nouveaux sons, personne ne le comprenait. Alors il recourait à la pantomime, illustrant sa pensée par des gestes, tout en répétant à plusieurs reprises le son nouveau. Ainsi le langage se développa. Les quelques sons dont nous nous servions nous permirent d'accroître légèrement nos facultés intellectuelles. Alors surgit la nécessité de nouveaux sons pour exprimer nos nouvelles pensées. Parfois, lorsqu'elles dépassaient nos limites sensorielles et atteignaient l'abstraction, nous ne parvenions plus à nous faire comprendre de nos semblables. En ce temps-là, les progrès du langage étaient extrêmement lents. Oh, vous pouvez m'en croire, nous étions d'une simplicité déconcertante. Mais nous savions beaucoup de choses complètement ignorées aujourd'hui. Ainsi nous pouvions remuer les oreilles, les dresser, les aplatir à volonté. Sans difficulté, nous parvenions à nous gratter entre les épaules et à lancer des pierres avec nos pieds. Maintes fois, je me suis livré à cet exercice. Raidissant les genoux, je me pliais sur les hanches et touchais le sol, non pas du bout de mes doigts, mais avec mes coudes. Quant à la chasse au nid d'oiseaux, oh, je voudrais que les gamins du XXe siècle eussent pu nous voir. Cependant, nous ne faisions point collection d'eux, nous les gobions. Je me rappelle, mais n'anticipons pas. Tout d'abord, je désirais vous parler de mon amitié avec Oreille Pendante. Très jeune, je me séparais de ma mère, sans doute parce qu'après la mort de mon père, elle prit un second époux. Mes souvenirs de cet homme restent vagues et plutôt défavorables. Très mince et d'apparence fragile, il était bavard, et maintenant encore, quand j'y songe, son infernal babillage continue à me crisper les nerfs. Son inconséquence l'empêchait de suivre la moindre idée. Quand je vois des singes dans une cage, je pense à lui, car il avait une allure tout à fait simiesque. Voilà la description la plus adéquate que je puisse en fournir. Dès l'abord, il me détesta, et moi-même, je ne tardais pas à redouter sa présence et ses mauvaises farces. Dès que je l'apercevais, je me glissais vers ma mère et m'accrochais à elle. Mais à mesure que je grandissais, je m'éloignais inévitablement et de plus en plus de la vigilance maternelle. Le jaseur n'attendait que ses occasions. Dès maintenant, laissez-moi vous dire qu'à cette époque, nous ne portions point de nom. Pour la clarté de mon récit, j'en ai donné aux différents personnages avec lesquels je me trouvais le plus souvent en contact Et le jaseur est le nom qui me semble le mieux convenir à mon fameux beau-père. Quant à moi, je me suis nommé Grande Dent, mes canines étant très développées. Le jaseur ne cessait de me persécuter, de me pincer, de me gifler, et parfois même ne se gênait pas pour me mordre. Fréquemment, ma mère intervenait, et je prenais alors plaisir à la voir arracher les poils de mon beau-père. Hélas, ces disputes engendraient d'interminables scènes de ménage, dont, en fin de compte, je faisais toujours les frais. Certes, ma vie de famille n'était pas heureuse. Je souris en écrivant cette phrase « ma vie de famille ». Au sens moderne de ce mot, je n'avais pas de foyer. Ce que je pourrais désigner sous ce terme était une association et non un gîte. Je vivais sous la garde de ma mère, mais pas dans une autre maison. Ma mère habitait n'importe où, pourvu qu'à la nuit tombante, elle se sentît au-dessus du sol. Très primitive, ma mère continuait à vivre sur les arbres, alors que certains membres plus avancés de notre horde logeaient déjà dans des cavernes au-dessus du fleuve. Ma mère, méfiante et rétrograde, se contentait de nicher dans le feuillage. Nous avions notre arbre particulier où se trouvait notre nid préféré. Cependant, lorsque l'obscurité nous surprenait, nous cherchions un abri dans un arbre quelconque. Sur une fourche commode, nous étalions une plateforme composée de branchages, de rameaux et de lianes. Et bien que moins douillette, cette installation offrait l'aspect d'un grand nid. Toutefois, avec cette différence, elle possédait un toit. Oh, pas un toit comme en construit l'homme moderne, ni même tel que le conçoivent de nos jours les plus arriérés des sauvages. Non, c'était un travail grossier, où les matériaux s'entassaient pêle-mêle au-dessus de la fourche où nous perchions. Quatre ou cinq fourches adjacentes soutenaient ce que j'appellerais l'échafaudage du toit, formé de bâtons d'environ 1 pouce de diamètre sur lesquels reposaient les branches et les rameaux. Ceux-ci semblaient y avoir été lancés sans ordre ni méthode et sans aucun souci d'imperméabilité, car, je dois l'avouer, par grosse pluie, l'eau filtrait à travers le toit de façon déplorable. Mais revenons à mon beau-père, le jaseur. Comme je l'ai déjà dit, il rendait insupportable à ma mère et à moi la vie familiale. Par vie familiale, je n'entends pas le nid aérien qui faisait haut de toutes parts, mais le groupe humain formé par nous trois. Le jaseur s'acharnait contre moi avec méchanceté. J'étais le seul objet capable de retenir son attention plus de 5 minutes à la fois. De plus, ma mère finit par se lasser de prendre ma défense. Je crois même qu'à la suite des chamailleries continuelles suscitées par le jaseur, j'étais devenu pour elle une source d'ennui. La situation empira si rapidement que j'aurais sans doute de mon propre gré quitté ma famille. La satisfaction même d'accomplir cet acte d'indépendance me fut refusée. Avant que je me fusse décidé à partir, je fus chassé de chez moi. L'occasion s'offrit au jaseur un jour que je me trouvais seul dans le nid. Ma mère et le jaseur s'étaient rendus de compagnie vers le marais aux myrtilles. Il avait dû tout comploter d'avance, car je l'entendis revenir seul à travers la forêt, poussant des rugissements de rage. Comme tous les hommes de notre horde, lorsqu'il était en proie à la colère ou qu'il voulait s'exciter à la violence, il s'arrêtait de temps à autre pour se frapper la poitrine à coups de poing. Je compris la situation désespérée et, tout tremblant, je me tapis dans le nid. Le jaseur se dirigea directement vers notre arbre, un chêne, je m'en souviens, et commença de grimper tout en continuant son vacarme infernal. Comme je l'ai expliqué, notre langage était très restreint. Aussi dut-il l'épuiser entièrement pour me faire comprendre son intention de régler sur le champ son compte avec moi. Comme il atteignait la fourche, je longeais la grosse branche horizontale. Il me poursuivit. Je gagnai l'extrémité, arrivai parmi les petites branches garnies de feuillage. L'âge, le tempérament. Chez le jaseur, la prudence l'emportait toujours sur la colère. Il n'osait me suivre au bout de la branche ou du reste. Avant de m'attraper, il eût dégringolé de tout son poids à travers les branches feuillues. Point ne lui était nécessaire de venir jusqu'à moi. Il le savait, le monstre. Une expression perverse apparut sur sa face, et ses yeux ronds brillèrent de cruauté. Puis il se mit à secouer la branche de toutes ses forces. Moi, tout à fait à l'extrémité, je m'agrippais aux brindilles qui se brisaient sous moi. Je voyais le sol à 20 pieds au-dessous de moi. Avec une violence de plus en plus grande, il agitait la branche tout en ricanant de haine triomphante. À ce moment se produisit le dénouement. Les 4 brindilles que je tenais se brisèrent simultanément, et je tombai sur le dos, serrant entre mes mains et mes pieds les branches cassées. Par bonheur, il ne se trouvait pas de sanglier sous l'arbre, et ma chute fut amortie par d'épais buissons. D'ordinaire, une chute interrompt brusquement mes rêves. Le choc nerveux suffisant à combler en une fraction de seconde l'abîme de milliers de siècles, et je me retrouve tout éveillé dans mon petit lit où, tremblant et couvert de sueur, j'entends sonner l'heure au coucou du vestibule. Plusieurs fois j'ai revécu cette expulsion du nid familial, et jamais je n'étais réveillé par cette dégringolade dans les buissons. Je tombai en poussant des cris d'horreur et frappai le sol avec un bruit sourd. Écorché, meurtri, pleurant, je demeurai à l'endroit de ma chute. À travers les feuilles, j'aperçus le jaseur. Il avait entonné un chant démoniaque et battait la mesure en se balançant sur la branche. Brusquement, je cessai mes cris. Je ne me sentais plus en sûreté comme dans mon nid. Je savais qu'en exhalant ma douleur par des gémissements, je m'exposais au danger de voir surgir les fauves. Tandis que s'apaisaient mes sanglots, je m'intéressais aux étranges effets de lumière que je produisais en ouvrant et en refermant partiellement mes paupières mouillées de larmes. Alors je me tâtais les membres et découvris que mon anatomie n'était pas trop endommagée. J'avais bien perdu, par-ci par-là, un peu de poil et de peau. L'extrémité pointue d'une branche brisée était enfoncée d'un pouce dans mon avant-bras, et ma hanche droite, qui avait subi le choc de mon contact avec le sol, me faisait souffrir de façon intolérable. Mais, tout considéré, ces blessures étaient sans gravité. En effet, je n'avais aucun os brisé, et en ce temps-là, les chairs de l'homme étaient plus aptes à se guérir que de nos jours. Toutefois, cette chute était sérieuse, car je boitais de la hanche meurtrie pendant au moins 1 semaine. Comme je demeurais là, étendu dans les buissons, un sentiment de solitude s'empara de moi, et je constatais, non sans amertume, que je n'avais plus de foyer. Je pris la résolution de ne plus retourner vers ma mère et mon beau-père. Je fuirais au loin, à travers les forêts, et choisirais un arbre où je nicherais seul. Quant à la nourriture, je savais où en trouver. Depuis plus d'un an, je ne dépendais plus de ma mère pour m'alimenter. Elle me donnait simplement son aide et sa protection. Je rampais doucement hors des buissons. Une fois, je me retournai et aperçus le jaseur qui continuait de chanter en se balançant sur l'arbre. Il n'était guère plaisant à voir. Connaissant suffisamment les précautions à prendre à travers la forêt, je déployai une extrême prudence dans ce premier voyage solitaire. J'avançais sans m'inquiéter du but, n'ayant qu'une seule idée en tête, m'éloigner autant que possible du jaseur. Je grimpais dans les arbres et pendant des heures entières, je passais d'un arbre à l'autre sans toucher terre. Je ne suivais aucune direction déterminée et voyageais de façon irrégulière. Comme mes semblables, j'étais de nature inconséquente. En outre, je n'étais encore qu'un enfant, et je m'arrêtais souvent pour jouer en chemin. Les aventures qui m'arrivèrent après mon départ du nid familial s'estompent, et mon esprit et mes rêves ne me les retracent point. Mon autre moi a beaucoup oublié, surtout en ce qui concerne cette période. De surcroît, je ne suis jamais parvenu à grouper mes différents rêves de façon à combler la lacune entre ma fuite de notre demeure aérienne et mon arrivée dans les cavernes. Il me souvient cependant qu'à plusieurs reprises, je traversais des espaces découverts. Je les franchissais à la hâte, descendant jusqu'à terre et courant de toute la vitesse dont j'étais capable. Je revois en ma mémoire des jours pluvieux et des jours ensoleillés, preuve que je dus errer pendant un temps assez considérable. Je me rappelle particulièrement ma détresse endurée sous les pluies torrentielles, les affres de la faim et la façon dont j'apaisais les tiraillements de mon estomac. Je conserve le souvenir précis d'une chasse aux petits lézards sur le sommet rocheux d'un monticule dénudé. Ils se faufilaient sous les cailloux et réussissaient presque tous à m'échapper. Mais de temps à autre, je retournais une petite roche et en saisissais un. La présence de serpents me chassa de ce monticule. Ils venaient simplement se chauffer au soleil sur les pierres plates et ne me poursuivaient point, mais telle était ma frayeur atavique de ces horribles animaux que je détalais aussi vite que s'ils eussent été à mes trousses. Alors je mâchais l'écorce amère des jeunes arbres. J'ai vague souvenance d'avoir mangé des noix vertes à la coquille molle et à la chair laiteuse. Je me souviens plus nettement d'un mal d'estomac causé soit par l'absorption de noix vertes ou de lézards. Je ne saurais préciser, mais je sais pertinemment que je dus au simple hasard de ne point avoir été dévoré par les bêtes féroces durant les heures où je me tordis sur le sol en proie à de violentes coliques.